Merci, Marie. Mary, Mary. Mary. Voilà, merci Sylviane et la vague. Voilà, on trouve le repos, n'est-ce pas, en Dieu. Alors voilà, j'ai reçu pour ce matin la lecture du psaume 107. C'est pour moi l'un des plus beaux psaumes de la Bible. J'avais reçu ça depuis plusieurs mois déjà. Je me disais, tiens, ça sera... Il y a 4 mois, je me disais, ça sera mon prochain message. Puis à chaque fois, le Seigneur me dirigeait vers autre chose. Et là, ce matin, je ne sens pas d'obstacle. Je sens que c'est pour ce matin. C'est un des plus beaux psaumes de la Bible. Il y a... On vient d'entendre un chant. Dans ce psaume, il y a comme un chant. Il y a comme un chant, ouais, dans ce psaume. C'est comme un hymne à la bienveillance de Dieu. D'ailleurs, vous allez l'entendre. Il y a un refrain qui revient tout le temps dans ce psaume. Et je vais le lire d'ailleurs, Annette, de sa place, lira le refrain. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un refrain qui revient constamment. On dirait un chant. Et ce chant sur la bienveillance de Dieu souligne l'une des caractéristiques de cette bienveillance par un verbe qui revient à chaque refrain. Vous allez le trouver, je pense. Alors, prenez vos Bibles et ayez vraiment ce magnifique texte devant les yeux. Dieu veut nous parler à travers ce texte, vraiment. Psaume 107. Annette, tu es prête de ta place, hein ? Il ne faut pas que je prenne ta place aussi, attention. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse.
Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable.
Il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme.
Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut.
Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses.
Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses.
Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et ils délivra leur angoisse.
Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Mais il change le désert en étang, et la terre aride en source d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, ils en recueillent les produits. Ils les bénissent, ils deviennent très nombreux. Ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Les fait-ils errer dans des déserts sans chemin? Ils relèvent l'indigent, ils le délivrent de la misère. Ils multiplient les familles comme les troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. Voilà, est-ce que, après cette lecture, vous avez trouvé le verbe qui caractérise la bienveillance de Dieu dans le refrain ? C'est vrai qu'on va s'arrêter sur louer, c'est vrai, on va s'arrêter. Mais ce verbe, je vous donne un autre indice, ce verbe se trouve dans les refrains, se trouve dans l'introduction aussi, dans les trois premiers versets, je dirais même au verset 2. Délivre, voilà, délivré, voilà. On le trouve au verset 2, on le trouve au refrain, versets 6, 13, 19, 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Si je devais donner un titre à ce message, c'est celui-ci, « Notre Dieu est le Dieu des délivrances ». Amen. Alors, je vais faire quelques remarques générales sur ce psaume. Puis, comme pour les disciples d'Emmaüs, comme pour le message de Didier il y a 15 jours, je vais dégager 4 clés. Je vais réécouter ton message, Didier, ce matin, avec bonheur. Ça m'a beaucoup encouragé. 4 clés, 4 paroles pour retrouver le chemin de la délivrance dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Alors, on peut découper ce psaume ainsi. Les 3 premiers versets, c'est l'introduction qui définit clairement le thème de la délivrance. Louez l'Éternel, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés. Puis, du verset 4 au verset 32, c'est le chant, avec ce refrain qu'Annette a repris constamment. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qui les délivra de leurs angoisses, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Ça, c'est le chant. Et enfin, les 10 derniers versets, 33 à 43, c'est la conclusion en quelque sorte. Alors, je m'arrête sur cette partie du chant avec les 4 couplets. Il y a 4 couplets autour des refrains, entre les versets 4 et versets 32. Et ces 4 couplets nous montrent 4 situations et nous montrent toute la palette des gens que Dieu est capable de délivrer. Toute la palette. On va retrouver là des gens que nous connaissons autour de nous. Ce psaume est un message d'espérance pour tous ceux qui ont besoin de délivrance. Toute une palette de gens dont nous faisions partie, qui ont besoin de délivrance. Au premier couplet, versets 4 et 5, Dieu délivre ceux qui sont errants, abattus, ceux qui ne trouvent pas un lieu où habiter. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Ça peut concerner des gens déplacés à cause du rejet, la persécution, la guerre et victimes d'une pauvreté extrême. Mais ça peut aussi concerner des gens qui ne trouvent nulle part le repos intérieur et la paix. Le Dieu des délivrances veut leur donner une ville habitable. Il va rassasier leur âme. Je me souviens d'un certain Christian qui a travaillé avec moi pendant plusieurs années. C'était un ancien professeur promis à devenir directeur. Son directeur lui avait dit « Un jour, tu me remplaceras. » Mais en pleine carrière, ce Christian tombe dans une profonde dépression. Des souffrances profondes de son enfance ont ressurgi. Il devient incapable d'enseigner. Et il se retrouve à un poste administratif à côté de moi, dans mon école. J'ai pu souvent lui parler, lui témoigner de ma foi, j'ai prié pour lui, mais Christian garde cette non-envie de vivre. Il ne sait pas ce que c'est avoir du plaisir. Il ne trouve plaisir en rien. Même manger ne lui donne aucun plaisir. Oh, moi, ça a touché mon cœur. J'étais rempli de compassion pour cet homme. Ouais. Il finit par décider de programmer son suicide. Et un jour, il le met à exécution. Il prend le train pour s'éloigner de chez lui. Il descend du train et marche longtemps jusqu'à un bois, une forêt, ou une forêt, je ne sais plus exactement. Il s'enfonce dans ce bois. Le soir commence à tomber, c'est la pénombre. Mais très vite, il entend du bruit. Il y a du mouvement à quelques mètres de lui, et ce mouvement ne va pas cesser pendant toutes les heures qui ont suivi jusqu'à la totalité de la nuit, à tel point que Christian, gêné par ce mouvement dont il ignore la nature, il ne s'est pas levé, il ne voulait pas se montrer, il ne voyait rien, c'était la nuit. Et de peur qu'on le trouve, il n'ose pas poursuivre sa macabre tâche, alors qu'il avait commencé à s'entailler le bras, les veines. À l'aube, les bras ensanglantés, il décide de se mettre en route. Très faible, bien sûr. Très vite, au bout de quelques minutes, il aperçoit un panneau hôpital. Il se dirige vers l'hôpital et là, on prend soin de lui. Il a plus de 20 points de suture. Christian a pu être sauvé. Il n'a pas pu aller au bout de son projet destructeur. Et c'est au téléphone que Christian m'a raconté tout ça. Et il m'a clairement signifié qu'il a vu la main de Dieu dans cette délivrance. Une délivrance qui s'est confirmée dans les semaines qui ont suivi, puisque Christian m'a dit qu'il avait retrouvé le goût de vivre. Et que même, il témoignait souvent de sa foi à d'autres. C'est pas beau ? C'est pas écrit dans les livres, il n'y a pas beaucoup qui connaissent ce témoignage, mais moi, quand j'ai entendu ça au téléphone, j'étais ému. On a autour de nous d'autres Christians, abattus, errants, n'ayant plus goût à la vie. Dieu veut les délivrer, les mettre sur notre route peut-être pour que nous les invitions à crier à Dieu ou que nous crions à Dieu pour eux. Ça, c'est un exemple pour le premier couplet. Au deuxième et au troisième couplet, je vais prendre les deux et trois couplets, c'est-à-dire versets 10 à 12 et versets 17-18. Dieu délivre une autre catégorie, ceux qui sont vraiment rebelles, révoltés contre Dieu, vous en connaissez ? Méprisant même ses conseils, qui se trouvent enchaînés comme prisonniers, Dieu délivre aussi ceux qui ont conduite insensée. Et Dieu permet que ces deux catégories de gens passent par la souffrance. Il est dit dans leur souffrance. Ils crièrent à Dieu, et dans leur détresse ensuite, pour que dans leur souffrance, ils se tournent vers Dieu. Et Dieu a rompu les liens des uns, et à d'autres, il a envoyé sa parole et les a guéris. Cela me rappelle, mais là je vais plus vite parce que je crois que certains l'ont déjà entendu ce témoignage. Témoignage d'un jeune homme qui était totalement dans cette catégorie, totalement. Je vous l'ai déjà raconté. Il s'agit d'un surveillant dans mon école, adepte de pratiques occultes, notamment la projection astrale. Voilà. Et donc, moi je lui parlais de Dieu, mais il ne m'écoutait pas. Il méprisait ce que je pouvais lui dire de la part de Dieu. Et une nuit, pris de fortes angoisses, il se lève. Il se met à genoux et crie à Dieu. Il cherche un Nouveau Testament ou une Bible. Il tombe sur le passage du fils prodigue. Il s'identifie à lui et se repent de sa révolte et donne sa vie à Jésus. Le lendemain, dans le train, il me dit, Jean-Luc, je ne suis plus sur la même planète. Et ce jeune homme est devenu par la suite animateur pastoral. Combien nous avons de ces personnes autour de nous ? Révoltés, prenant une conduite insensée, se trouveront finalement prisonniers. Dieu veut aussi les délivrer. Que ce soit par le biais de notre témoignage ou pas. Au quatrième couplet, versets 23-27, Dieu délivre ceux qui semblent avoir une bonne conduite, qui sont même des gens doués, habiles, nous en connaissons, qui certainement mettent toute leur confiance dans leur capacité. Mais ils doivent découvrir que leurs capacités ne peuvent les amener au port désiré. Ils vivent une tempête qui leur montre leur impuissance. Vous connaissez des gens habiles dans les informations, on entend des gens comme ça, très haut, vous savez à qui je pense, des gens très haut placés, tout leur réussit, et puis d'un seul coup c'est la tempête, ils se retrouvent tout en bas, et ils ne savent pas aller plus loin. Nous en connaissons hein, des gens, mais des gens qui se confient dans leur habileté. Toute leur habileté était anéantie, il est écrit. Seul Dieu pouvait calmer la tempête et les amener au port désiré. Dieu est le Dieu des délivrances. Et en écoutant ce psaume, en écoutant ces quelques témoignages, je pense que Dieu doit certainement, dans votre mémoire, vous rappeler des témoignages de délivrance. La vôtre, déjà, mais d'autres que vous connaissez autour de vous. Le Seigneur voudrait ranimer notre foi, notre confiance dans le Dieu des délivrances, pour que nous nous attendions de nouveau à voir le Dieu de délivrance à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Alors laissez-moi en dernière partie, attirer votre attention sur quatre paroles qui sont quatre clés pour nous permettre, que vous pouvez méditer cette semaine, pour nous permettre de retrouver le chemin de la délivrance, pour nous, pour les autres aussi. La première clé se trouve dans l'introduction, les deux autres se trouvent dans le refrain, et la dernière se trouve dans la conclusion. Première clé, louer l'Éternel, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes, nous sommes tous des rachetés ? On oublie ça, hein ? Nous sommes des rachetés. D'ailleurs, le mot « délivré » au verset 2, le sens original, c'est vraiment « racheté ». Il y a trois ou quatre mots hébreux dans le psaume pour traduire « délivré ». On a seulement « délivré », nous, mais il y a trois ou quatre mots hébreux. Et le premier mot, là, c'est le mot « racheté ». Donc, c'est juste qu'il les soit écrit qu'ainsi disent les rachetés. Ce qu'il a délivré, ça veut dire « racheté ». Et nous sommes des rachetés. Nous tous, on a été arrachés. Donc ça, c'est un autre verbe qui décrit le mot délivré, enfin voilà, qui est le sens original d'un mot hébreu aussi un peu plus loin. Il nous a arrachés au danger d'une vie sans Dieu et de l'enfer. On a été protégés, secourus, défendus. Tout ça, ça veut dire délivré. Hein. On a pu quitter, sortir du royaume des ténèbres. On a même été délivrés de la main de l'ennemi pour être dans la main de Jésus, de laquelle personne ne peut nous arracher. Le souvenir de notre délivrance en Dieu ne peut que stimuler notre foi pour la délivrance des autres. À l'inverse, l'oubli de ce statut de racheté émousse notre foi en la capacité de Dieu d'opérer encore des délivrances. Première clé, ne jamais oublier notre statut de racheté. Deuxième clé, dans le refrain, il est écrit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. » Crier. Ne pas avoir peur de crier. Crier parle de notre vulnérabilité. Ne pas avoir peur de notre vulnérabilité. Je me souviens toujours du témoignage de Robert quand il a crié au secours à Dieu dans cette église au Pays de Galles et que vraiment il est entré dans cette vie nouvelle. Il a crié un haut secours. Alors les hauts secours, c'est seulement la conversion ? Ben non. Nous continuons d'être vulnérables. Soyons faibles en nous-mêmes. Reconnaissons notre vulnérabilité. Déposons les armes. Soyons faibles en nos propres armes pour être forts en lui, certes. Dieu ne nous a pas délivrés pour que nous recommencions à nous confier dans nos propres ressources et même dans nos dons reçus du Seigneur. Je vous cite quelques paroles comme ça entendues dans des retraites au Château Blanc spirituel. Il n'y a qu'un peuple de vulnérables qui puisse toucher ma grâce et la propager. Même si on est vulnérable, on peut être en pleine sécurité. Notez ça. Même si on est vulnérable, on peut être en pleine sécurité. Libère-nous, Seigneur, de la peur d'être faible, d'être vulnérable. J'ai ici un texte, il n'y a pas de hasard. J'ai trouvé ce texte en fouillant pour trouver une référence d'un livre par rapport à ce message. Et je suis retombé sur le livre « La puissance de la louange », un vieux livre que j'ai récupéré, je l'avais perdu. Et je l'ai récupéré, je crois, dans une braderie ou je ne sais quoi. Et j'ai trouvé un texte dedans. Je ne vais pas le lire parce que ça rajouterait, mais je vais le laisser sur la table. Le titre, c'est « Être désarmé ». Je vous invite à partir avec ce texte. Il n'y a pas de hasard. Je suis tombé là-dessus. Il y a certainement une raison. Soyons faibles, chers amis, en nous-mêmes, en nos propres armes, pour être forts en Jésus et en Jésus seul. Troisième clé, dans le refrain, et là c'était cité par Lydie, qu'il loue l'Éternel, c'était cité par Didier à 15 jours aussi, comme une clé, la louange en toutes circonstances. S'il y a cette répétition, qu'il crie, qu'il crie, crie, c'est que vraiment que Dieu insiste pour que nous acceptions notre vulnérabilité. Mais s'il y a cette répétition, qu'il loue, qu'il loue, qu'il loue, qu'il loue, c'est une invitation à louer Dieu en toutes circonstances. Si on le loue qu'une fois de temps à autre, ça veut dire qu'on pense que Dieu est bon quand il veut. Dieu est bon aujourd'hui, mais demain il ne sera pas bon. Dieu est bon aujourd'hui, mais demain il ne sera pas bon. Demain il sera moins bon. Dieu est bon tous les jours. Dieu est bon toujours. Son amour ne change pas. Il ne change pas. Apprendre à louer Dieu en toutes circonstances, c'est déclarer ma foi en un Dieu qui ne change pas. Et son amour ne change pas. Dieu n'est pas un Dieu qui change. Sa nature profonde reste la même. Louer Dieu dans l'épreuve, c'est démontrer notre foi en un Dieu qui ne change pas. Il l'a prouvé, son amour, en donnant son Fils à la croix. Il ne cesse pas d'être riche en bonté, en fidélité, bienveillant, plein de miséricorde, à mon égard, quand je traverse l'épreuve ou quand je chute. Pascal l'a lu, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et celui qui a écrit cela, c'est quelqu'un qui était un moment amer, finalement, à la fin du psaume, il a compris qu'il pouvait aimer Dieu, être l'ami de Dieu en tout temps. Parce qu'il est toujours l'objet de son affection, même dans l'épreuve. Il y a des livres dans une vie qu'il faudrait relire plusieurs fois, et les livres de Merlin Carothers, La puissance de la louange, De la prison à la louange, c'est des livres qu'on devrait relire plusieurs fois dans une vie. Il y a un dicton qui dit « L'avenir est à ceux qui se lèvent tôt », moi je vous en donne un autre, « L'avenir est à ceux qui sont reconnaissants ». L'avenir est à ceux qui sont reconnaissants et qui savent louer Dieu en toutes circonstances. Amen. Quatrième et dernière clé, et pour moi je pense que c'est la plus importante, c'est dans la conclusion, là il faut que j'ouvre ma Bible parce que faut pas que je... dans le psaume 107, dans la conclusion, au verset 35 et 36, 107, 35, 36. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés. Il établit dans ses sources d'eau vive ceux qui sont affamés. La quatrième clé. Rester un affamé de Dieu, de son amour, de sa justice. Il ne s'agit plus là de l'affamé errant et abattu, dépressif. Il s'agit de l'affamé gourmand. L'affamé gourmand de la présence de Dieu. La présence aimante et puissante de Dieu. Disons celui qui en veut, qui ne lâche rien, pour reprendre des expressions sportives à l'heure de la Coupe du Monde, pour parler un peu de sport. Hein. Voilà. Celui qui ne lâche rien, comme la veuve qui importune le juge en disant « Donne-moi la part, donne-moi ce qui me revient, rends-moi justice. » Elle ne lâche rien. L'affamé ne lâche rien. C'est un chasseur de Dieu. Et oh Seigneur, des fois je me dis « Oh là là, j'étais des fois un peu plus affamé avant. Oh Seigneur, que je retrouve cette faim. Cette faim. L'enfant de Dieu normal. » est un affamé, un chasseur de Dieu, un chercheur constant de sa vie, de son amour pour l'incarner au mieux. Et cet affamé, Dieu l'établit. Et si vous lisez la suite dans le psaume 107, vous allez comprendre ce que ça veut dire établir. Dieu fait de lui un fondateur. Dieu fait de lui quelqu'un qui plante, qui sème, qui recueille les produits de sa semence, quelqu'un qui voit la multiplication, même s'il doit passer par des temps de désert ou d'approfondissement, d'appauvrissement un temps. Bref, Dieu établit l'affamé dans ses sources d'eau vive pour lui donner la fécondité. Et il y a une parole qui m'a marqué au dernier week-end dans sa présence, c'est celle-ci, Dieu a toujours en vue pour nous la fécondité. Dieu a toujours en vue pour nous la fécondité. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Jésus a dit, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Ceux que Dieu délivre, il les établit pour une fécondité. C'est une suite logique. Dans cet appel ce matin, à nous confier dans le Dieu des délivrances, saisissons cette promesse de fécondité. Même s'il faut passer par des temps de dépouillement, de mort, cette fécondité est incluse dans la délivrance. Mais restons cet affamé de Dieu. Et je termine avec ce dernier témoignage. Et en préparant ce message, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, Jean-Luc, redis ça, reparle de ce témoignage. Oh, c'est pas tout récent. Nous sommes en 1987, au mois de mai. Je me rends à une retraite spirituelle organisée par Jeunesse en Mission. Elle se passe à Chantilly, près de Paris. J'y vais... Affamé, tu étais là, Didier? Il me semble que tu étais là. Est-ce que c'était la même ou une autre? Parce qu'on était allé deux fois, en deux années de suite. Donc c'était ou la première ou la deuxième, je ne sais plus. Oui. J'y suis allé affamé. Il y avait une faim en moi, mais aussi un peu d'impatience. Ça faisait 10 ans que nous avions reçu l'appel pour démarrer une église à Wavrin. Annette et moi. Mais à part quelques contacts, rien n'était vraiment établi. Mais cette retraite allait donner le signal de départ. Déjà en arrivant dans ma chambre, je tombe sur une petite carte avec ce verset, « Va avec la force que tu as ». Ça c'est envoi, hein. C'est envoyé. Ah, je dis, « Seigneur, serait-ce le signal de départ ?» Ouais. Et tu vaincras. J'étais très attentive au message qui était vraiment puissant, percutant. Et je prenais les temps libres pour aller prier dans le parc, dans l'après-midi. Et je disais au Seigneur, à quand cette église de Wavrin? Ce verset biblique, n'est-ce pas le signe? Donne-moi de saisir le combat spirituel que je dois mener. Et au cours de la deuxième nuit, J'étais en prière entre 2h du matin et 5h du matin. J'ai dû dormir un peu entre deux, mais j'étais tellement boosté par les messages que j'ai entendus que je priais pour Wavrin, je priais pour un tas de gens. Et à l'aube, j'ai une vision éveillée. Je voyais sans cesse devant moi, dans un fond ténébreux, des visages laids, très laids, tournoyés. Et je comprenais tout de suite que le Seigneur répondait à ma prière de la veille, où je disais « Montre-moi le combat que je dois mener. » Et je disais au Seigneur « Mais de quel esprit il s'agit ?» Tout de suite, je comprenais. « De quel esprit il s'agit ?» Et j'avais tout de suite, très clairement, cette première réponse intérieure. La première réponse est « Esprit de mensonge et de séduction qui anime les témoins de Jéhovah. » Je vous donnerai des explications après. Hein. Bon, je revoyais ces visages tournoyés. Je repose la question « Seigneur, de quel esprit il s'agit ?» Et avec une autre image que le Seigneur me donnait, j'avais cette réponse très nette « Esprit d'impureté. » Je revois ces visages tournoyés qui m'obligent à poser la question une troisième fois, mais quel esprit là? Et avec une autre image aussi, j'avais cette réponse intérieure, esprit de tradition. Et après, j'avais une autre image, mais il y a des choses, comme c'est enregistré, je dois faire attention à ce que je partage, donc je fais attention quand même. Mais dans une dernière image où je revoyais ces visages laids encore, j'ai vu le visage de ma mère. Et j'avais cette réponse intérieure, esprit de dépression. Quand on reçoit quelque chose comme ça, on est... Alors, je suis revenu à Wavrin. J'ai partagé cette vision avec Annette. Donc, je crois que c'est la première fois où tu n'y étais pas, Didier. Moi, je crois que c'est ensemble la deuxième fois où on est retourné à Chantilly. Et je me suis mis à réfléchir. Et le Seigneur me rappelait une information reçue d'abord par un couple de témoins de Jéhovah que je connaissais, que j'avais visité à Wavrin. Il m'avait dit que tous les témoins de Jéhovah de la métropole lilloise, 700 ou 800, près de 1000, se réunissaient à la salle des fêtes de Wavrin deux fois par an. Ouais. Dans la grande salle des fêtes de la commune. Je décidais d'aller prier devant cette salle. Et en traversant la ville de Wavrin, je découvrais des affiches annonçant le prochain film au cinéma de Wavrin et des affiches avec des dessins obscènes, donc qui indiquaient un film tirant sur le porno. Hein. Et en priant devant ce cinéma, je constate qu'il y a un magasin à côté qui loue des cassettes avec une quantité de cassettes pornographiques. J'ai prié devant ce cinéma, j'ai prié devant cet endroit aussi, devant le magasin. Je suis revenu plusieurs fois devant ces lieux pour prier. Devant le domicile du couple de témoins de Jéhovah, devant la salle des fêtes, devant le cinéma, devant le magasin. Pour l'esprit de tradition, j'avais rien reçu, mais j'ai compris que ce qu'on devait faire, c'est prier pour une percée de la parole de Dieu. Qui allait supplanter l'influence de traditions humaines ou religieuses qui peuvent étouffer cette parole. Dans les mois qui ont suivi, j'ai reçu un courrier de ce couple de témoins de Jéhovah à qui j'avais écrit pour me dire « Nous avons décidé de changer de lieu, nous ne serons plus à Wavrin, mais nous allons nous réunir ailleurs, dans une petite ville de tout près de Lille. » Il m'informait qu'il n'allait plus revenir à Wavrin. Dans les mois qui ont suivi, le cinéma a fermé. Le magasin de cassettes vidéo a fermé. Dans les mois qui ont suivi, alors c'est un peu plus tard que je l'ai appris. J'ai appris que le prêtre en exercice, à ce moment-là, avait réuni des agriculteurs de Wavrin parce qu'il était un peu agacé par le maintien d'une tradition, c'est-à-dire la bénédiction des chevaux et des tracteurs à la Saint-Éloi. Et Wavrin était un endroit unique où cette tradition se gardait, que ça ne se faisait plus vraiment ailleurs, à tel point qu'on le voyait à la télévision sur FR3. le prêtre a réuni les agriculteurs et leur a dit, en quoi cette tradition vous aide à grandir dans la foi en Christ? Personne n'a répondu. Et il leur a dit, alors pourquoi continuer? Et ça s'est arrêté. Peu après la retraite spirituelle à Chantilly, on a commencé à ouvrir les portes. Vous savez, chez ceux qui connaissent notre maison, il y a deux pièces et il y a des portes qui sont entre les deux pièces. Elles étaient fermées pendant des années, ces portes. Nous avons ouvert ces portes pour accueillir une trentaine de personnes pour voir un film, Nikolaï, un film Portes Ouvertes, qui était tourné en cet endroit en partie à Lille aussi. Et Dieu allait convertir des personnes et envoyer des chrétiens pour fortifier notre groupe après cette retraite, après ces prières. Et je confirme que ma mère était bien habitée par un esprit de dépression. Elle avait beaucoup de craintes. Elle avait très peur de la mort. Et en priant pour elle, nous l'avons vue ensuite beaucoup plus sereine. Voyez ce qui a déclenché ce songe. Reçu au petit matin d'une semi-nuit de prière. Au cours de laquelle j'étais, je le répète, affamé. J'étais affamé. Je disais à Dieu ma faim de lui. La veille, j'avais entendu un message d'un orateur qui disait « Surtout, ne cherchez jamais la puissance sans l'amour. Ne cherchez jamais la puissance sans l'amour. » Et je priais, je dis, Seigneur, remplis-moi d'amour. J'étais affamé. L'église de Wavrin est née dans un contexte de faim et de délivrance. Dieu établit ceux qui sont affamés. Il les établit dans ses sources d'eau vive. C'est dans le texte. Nous nous appelons sources de vie. Il a en vue pour nous la fécondité. Soyons encouragés par cette parole ce matin, par ces témoignages, et demandons à Dieu la grâce de ne pas oublier notre statut de racheté, d'accepter d'être vulnérable et de savoir crier, de louer Dieu en toutes circonstances pour sa bonté qui ne change pas et surtout, surtout, de rester affamé. Pardon Seigneur, je ne suis pas suffisamment affamé pour continuer à vivre de nouvelles délivrances et marcher vers la fécondité. Amen. Je vous invite à vous lever et on va prier. On va proclamer le Dieu, notre foi dans le Dieu des délivrances. Amen. Amen. Je vais prier, mais si l'un ou l'autre veut compléter par une prière, voilà, c'est tout à fait libre. Hein. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ces témoignages que tu as remis à notre mémoire, ceux que tu as remis en mémoire à chacun ici. Seigneur, merci, parce que tu nous rappelles ce matin que tu es le Dieu des délivrances et que tu restes le Dieu des délivrances. Et cela, nous le proclamons devant les puissances et les autorités. Nous proclamons que tu restes le Dieu des délivrances, parce que tu es le Dieu plein de bonté, dont l'amour ne change pas. Et nous voulons nous attendre comme à des rendez-vous divins, nous voulons nous attendre à de nouvelles délivrances, pour nous-mêmes, pour les autres. Et nous voulons marcher vers l'expérience de ce Dieu de délivrance, en n'oubliant pas notre statut de racheté, en acceptant d'être vulnérable. À tous, le Seigneur nous dit ce matin, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, soyez faibles dans vos armes, soyez forts en Jésus, et en Jésus seul. Nous voulons continuer à marcher vers l'expérience de la délivrance en louant Dieu en toutes circonstances, un Dieu qui ne change pas. dont l'amour ne change pas. Mais surtout, nous voulons rester un affamé. Seigneur, je demande par ton Saint-Esprit la grâce. Je demande pardon d'abord. Je demande pardon de ne pas être assez affamé. Encore, je demande pardon. Nous demandons pardon. Pardon parce que parfois, dans le confort, on est dans notre confort, on est bien, mais tu nous veux toujours affamés, de plus en plus. Parce que tu délivres ceux qui sont affamés. Et tu les établis dans ces sources d'eau vive pour nous conduire vers la fécondité. Nous saisissons ce matin la fécondité à laquelle nous sommes destinés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.